21h passée de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Merci de monter à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Ce soir, nous allons vous proposer un entretien avec Gérard de Cortance. Gérard de Cortance que nous avons rencontré à Dijon il y a quelque temps, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Invité pour une riche actualité littéraire, notamment avec le dictionnaire amoureux des 60s, disponible aux éditions Plon, et un roman paru chez Albin Michel, qui a pour titre « Laisse tomber les filles ». Gérard de Cortance a été prix Renaudot en 2002 pour un roman intitulé « Assam ». Il est romancier et essayiste, auteur de plus de 80 livres traduits en 15 langues. On lui doit notamment « Les vice-rois », »,« Frida Kahlo » ou « La beauté terrible »,« L'an prochain à Grenade » et plus récemment « Zazou », qui a connu un vif succès. Laisse tomber les filles est considéré d'ailleurs comme le grand roman de la génération yéyé. Il en sera également question dans l'entretien que nous allons vous proposer d'ici quelques minutes sur votre radio locale. Mais si vous le permettez, nous allons d'abord ouvrir cette émission par une petite pause musicale et ensuite nous vous proposerons l'entretien que nous avons enregistré à Dijon, donc avec Gérard de Cortance. Très bonne soirée à toutes et à tous, c'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Stand here on my own. Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Bonsoir Gérard de Cortance.
Bonsoir.
Alors, sur le devant de l'actualité littéraire, il y a le dictionnaire amoureux des 60s, disponible en librairie aux éditions Plon. Et puis, il y a votre roman intitulé « Laisse tomber les filles » chez Albin Michel. « Laisse tomber les filles », clin d'œil à France Gall.
Oui, mais pas
indirectement.
Seulement. Oui, alors France Gall, mais paroles et musique de Gainsbourg. Gainsbourg qui était plutôt considéré comme quelqu'un de misogyne. Et ce qui m'intéresse dans cette chanson, c'est qu'elle est très très actuelle, parce qu'en fait, si on écoute bien les paroles, et les paroles ont un sens, hein, quand... Gainsbourg écrivait des paroles, ses paroles avaient un sens. C'est une jeune fille qui dit à son copain, si tu continues à être comme ça avec les filles, avec moi, avec nous, si tu ne changes pas d'attitude, eh bien nous, on va te laisser tomber. Donc, messieurs les hommes, changez d'attitude à l'égard des femmes. Et je trouve que c'est extrêmement contemporain.
Alors, votre roman « Laisse tomber les filles » commence lors de la nuit du 22 juin 1963. Alors, je vous laisse le soin d'expliquer ce qui s'est passé, ce que vous appelez la nuit de la nation dans le dictionnaire amoureux. Oui. Que s'est-il passé le 22 juin 1963? Alors, était-ce déjà un début de rébellion, de révolte et de contestation?
Non, pas du tout, justement. Non. Alors,
parce que ça a dégénéré.
Oui, pour remettre ça replacer cette histoire dans le contexte, en 62, Daniel Filippecchi, qui a déjà l'émission de radio « Salut les copains » sur Europe 1, décide de lancer un magazine qui va s'appeler « Salut les copains ». Pour fêter le succès immédiat, plus de 2 millions de lecteurs, magnifique, hein. Pour fêter le premier anniversaire de la sortie du numéro, disons que la première année, il décide d'organiser un concert gratuit sur la place de la Nation à Paris. On attend environ 5000 personnes.
Et le leader, c'est Johnny Hallyday.
Johnny Hallyday, ils sont tous là. Hein. Sylvie Vartan, tous, ils sont, les chaussettes noires, tous. Il n'y en a pas un qui manque à l'appel. Alors, il faut s'imaginer la place de la Nation à Paris. C'est une place qui est grande, mais qui n'est pas monumentale. C'est en 63, donc ce n'est pas éclairé du tout, ou très très mal. Il y a une petite scène. Ce ne sont pas les scènes énormes d'aujourd'hui, ce n'est pas Woodstock, hein, la Nation en 63. La Sodo n'est pas très très bonne. Il y a 150 000 personnes qui déboulent. Il y a quelques quarts de police, ce n'est pas les CRS armés, pieds en cap, c'est quelques flics avec des caplines. Vous voyez, c'est tout juste, ils ne sont pas la police à vélo qu'on peut remarquer dans les films des années 30. Ça dégénère, enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a 150 000 jeunes gens et jeunes filles, donc ça fait un peu de bruit, bien. Il y a ce qu'on appelle les blousons noirs. Alors, les blousons noirs, c'est pas très très méchant, un blouson noir. Ça a 15-16 ans, c'est un blouson de cuir, ça a les cheveux un petit peu longs. Les idoles, c'est Elvis Presley, c'est le rock'n'roll. Ils ont quelques chaînes de vélo. Ils roulent sur des mobilettes 50 cm cubes dont ils ont enlevé le pot d'échappement pour faire un peu plus de bruit. Vous voyez, ce ne sont pas des bandes armées. Mais donc, le concert dégénère et finalement le concert est arrêté. Le lendemain, dans la presse, ça devient un événement absolument national. De la gauche à la droite, on fustige cette jeunesse qui a fait le coup de force contre la police, des filles ont été violées, des voitures ont été brûlées.
Des branches d'arbres brisées.
saccagées, enfin. Et il y a des articles dans la presse, mais absolument extraordinaires, pour écrire mes deux livres, là. Je les ai consultés, et notamment l'article signé d'un certain Philippe Bouvard, qu'on connaît bien, et qui est ahurissant.
Ah oui.
Il dit tout simplement, entre le discours d'Hitler au hashtag et la musique twist d'aujourd'hui, au fond, ce n'est qu'une question de musicalité. C'est la même chose.
Alors André Frossard aussi a des paroles terribles. Je les lis puisqu'elles sont dans l'article. Quand on constate que trois idoles du twist n'ont qu'à paraître pour jeter 200 000 Parisiens de moins de 20 ans dans ces transes furibondes d'un invraisemblable culte de la nullité, on commence à se demander si l'écume est aussi différente qu'on le croit du bouillon.
Oui, alors là, il y a vraiment une scission qui va s'opérer entre d'un côté cette jeunesse. Ce sont des adolescents, c'est les baby-boomers, hein, en réalité. Et de l'autre, ce qu'on va appeler les croulants, c'est-à-dire qui ont plus de 30 ans. Vous êtes croulants quand vous avez plus de 30 ans. Et vraiment, on monte les uns contre les autres. Il y a un article très très intéressant, un double article qui paraît dans Le Monde quelques semaines plus tard, qui est signé Edgar Morin. Et Edgar Morin invente le mot « yéyé ». C'est lui qu'on doit cette terminologie. Et il dit au fond, mais qu'est-ce que c'est qu'être yéyé ? Yéyé, ça veut dire être jeune, c'est tout. Voilà. Et il faut remettre vraiment tout ça dans le contexte. Imaginez les gens qui ont 13, 14, 15 ans à l'époque. Bah oui, ils écoutent Johnny Hallyday. Bah oui, Johnny Hallyday, les paroles ne sont pas très, très, très intéressantes. Ce n'est pas une très, très grande musique. Mais ça emmerde tellement les parents. C'est ça le sujet fondamental, c'est-à-dire que ces jeunes gens et ces jeunes filles veulent trouver leur place dans la société et ils la trouvent notamment en écoutant de la musique qui est absolument honnie par leurs parents, comme d'ailleurs ses parents, pour certains lorsqu'ils étaient zazous pendant la guerre, c'est le titre d'un de mes précédents livres, lorsque ses parents étaient zazous pendant la guerre, ils écoutaient entre 1930 et 1945 une musique qu'on appelait le swing. Et le swing, c'était absolument inaudible pour leurs parents. Donc c'est une affaire qui se répète, en fait, une génération suivante, avec cette petite différence qui est essentielle, c'est que les Azous avaient en face d'eux des nazis, la collaboration, la guerre, la faim, la famine.
Et les privations de liberté.
Et les privations de liberté. Les yéyés, donc ces baby-boomers nés entre 45 et 55, c'est une situation totalement différente. Les guerres, la guerre d'Algérie bientôt terminée, sont loin, sont terminées. Ils n'ont pas en face d'eux la répression, ça n'existe plus, c'est pas trois flics avec une matraque, c'est pas de la répression ça, c'est pas les nazis. Et surtout, ils peuvent consommer, c'est-à-dire c'est la première fois. C'est la première génération qui a de l'argent de poche et qui peut consommer. D'ailleurs, on fabrique pour eux, la culture de la consommation. Puisqu'ils ont de l'argent de poche, eh bien, ils vont pouvoir acheter des vêtements qu'on va fabriquer uniquement pour eux, des magazines uniquement pour eux, des émissions radio uniquement pour eux, du cinéma, etc. etc.
Des vêtements,
bien entendu. Voilà. Donc c'est une génération qui consomme. D'ailleurs, comme leurs parents aussi se mettent à consommer, c'est ça qui est assez troublant, parce que les jeunes gens et ces jeunes filles vont consommer, mais leurs parents aussi. C'est la première fois que ces gens peuvent acheter en grand nombre des machines à laver, des lave-vaisselle, des voitures, des télévisions, la radio. Enfin, c'est la France des 30 Glorieuses, hein. C'est la France qui avance, qui a un projet collectif, qui ne connaît pas le chômage et qui a un chef charismatique pendant ces 10 années de reconstruction qui est Charles de Gaulle.
Et qui n'incarne pas non plus une grande modernité. C'est un peu un homme du passé pour des ados de
17-18
ans.
C'est un peu un homme du passé, mais qui maintient cette France. Alors, dans une forme de ça, c'est le grand paradoxe, dans une forme de carcan, hein. C'est une société qui est quand même encore très, très, très corsetée, mais en même temps, on s'aperçoit avec le recul qu'il y avait quand même une liberté de ton, de parole, de création qui était absolument incroyable.
D'ailleurs, le général de Gaulle, au lendemain des incidents de cette fameuse nuit du 22 oui. juin 1963, avait dit, que voulez-vous, il faut bien qu'il s'amuse, donc compréhensif.
Oui, et alors il a une idée, il dit, mais ils ont de l'énergie à revendre. Alors je cite, mais un peu de mémoire, c'est pas la citation exacte, mais le sens y est. Au fond, qu'ils construisent des routes Allez, mettez avec une pelle et une pioche et ils vont construire des routes. Et je trouve ça, oui. Oui, c'est assez drôle, c'est assez amusant cette histoire.
Et vous l'écrivez, Gérard de Cortance, « La nuit de la nation n'initie pas un mouvement de protestation, mais l'affirmation d'une identité collective », ce
oui.
que vous nous avez expliqué. En fait.
À partir de là, vraiment, on se dit « Tiens, mais oui, nous sommes entre nous, les jeunes gens et les jeunes filles, on forme une société ». Et c'est la première fois que ça arrive. On se dit, tiens, voilà, mais au fond, on peut se dire des choses entre nous, on peut parler entre nous, on a les mêmes aspirations, on a les mêmes idoles, on va voir les mêmes films, on écoute la même musique.
Alors c'est un peu le début de l'uniformisation un peu de la société.
Bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui est très, très intéressant dans ce mouvement, alors c'est mon analyse, on peut la contester tout à fait, c'est que il n'y a pas que, mais ces jeunes gens et ces jeunes filles qui sont devenus les princes et les princesses de la consommation à outrance, vont finir par rejeter cette société de consommation. Et ça va mener à 68. 68, alors c'est le rejet total de cette société de consommation. On ne veut plus consommer, ou en tout cas, on ne veut plus consommer de cette façon-là. Donc on écoute une autre musique, contestataire. C'est les années beatnik, hippie, etc. L'arrivée de la drogue. L'arrivée des groupes anglais, du protest song qui vient des États-Unis avec John Baez et Bob Dylan, et surtout une société qui est en train de totalement changer. On finit par brûler le drapeau américain qu'on avait porté au nu, juste après la guerre, puisque une partie des libérateurs portait haut le drapeau américain qu'on adorait. La société américaine de l'immédiate après-guerre, je veux dire, on a ça en point de mire. Hein. On veut vivre comme aux États-Unis, on veut consommer comme aux États-Unis. Et au fond, 10 ans plus tard, 58-68, c'est tout à fait un autre courant qui arrive. Et il y a un refus total. On va manger des plantes hallucinogènes à Katmandou à pied. En partant à pied de Paris. Enfin, voilà, je schématise, mais c'est intéressant ce mouvement de cette société qui change totalement.
On marque un premier temps de pause musicale à bord de Wagon Lit. Je rappelle que nous sommes ce soir avec Gérard de Cortance pour son dictionnaire amoureux des 60s et son roman Laisse tomber les filles. On se retrouve dans une poignée de minutes.
To
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Gérard de Cortance, en 1963, vous êtes un adolescent.
Oui, oui, je suis très jeune. En 1963, j'ai 15 ans.
Et quel garçonnet êtes-vous entre des parents qui, justement, surveillent un peu vos lectures, ce que vous regardez à la télévision? Ils prennent soin de vous, comme tous les parents à peu près de l'époque.
Alors, il faudrait une deuxième émission pour que je raconte. Que j'ai écrit 80 livres, 90 même, et je crois que je ne cesse d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. En deux mots, je viens d'une famille très, très étrange. Vieille famille aristocratique piémontaise du côté de mon père. Famille ouvrière napolitaine du côté de ma mère, descendant de Fra Diavolo, frère diable, un bandit de grand chemin, qui a lutté aussi contre les troupes de Bonaparte, donc ça, ça me plaît beaucoup. Mon grand-père maternel était maçon et jouait de l'accordéon dans les bals du samedi soir. Donc j'ai cette double généalogie, hein, classe ouvrière, aristocratie. Naples et le Piémont, c'est deux Italies, mais toute ma famille vient de l'exil italienne. Donc une volonté chez nous d'oublier totalement l'Italie, de s'inscrire totalement dans le paysage français, de devenir français. Donc, une certaine contrainte dans l'existence, des études chez les frères jésuites, mais tout ça dans une banlieue parisienne, à Gennevilliers. On vit très très peu à Paris, on vit essentiellement dans les banlieues et assez longtemps à Gennevilliers. Et je me sens totalement isolé dans cette famille. Je ne dirais pas que c'est une famille acculturée, mais c'est une famille qui ne va pas au cinéma, qui ne va pas à l'opéra, qui ne va pas au théâtre, qui ne lit pas. Hein. Dans la noblesse d'épée, on ne lit pas, même si c'est une noblesse qui vient de loin, on n'a pas oublié ça, on ne lit pas. Ma mère ne lisait pas non plus. Donc moi, je me suis construit absolument tout seul, et notamment par la lecture. Et là encore, c'est quelque chose d'assez, d'assez étonnant, mais tellement fondateur pour la suite, hein, quand on se dit qu'on va devenir écrivain. J'avais une marraine richissime qui venait à chaque Noël. On était beaucoup de cousins, de cousines et familles italiennes, et qui offrait à tout le monde des livres. Mais sans se soucier de l'âge des cousins, des cousines et de mon âge, elle était capable, nous avions 5 ans, de nous offrir le Quichotte, par exemple. Bien.
Ambitieuse, la marraine.
Ah oui, la marraine. Et elle venait avec, donc, elle descendait de sa grosse traction avant, avec son chauffeur et sa casquette. Le chauffeur marchait devant avec une pile de livres pour les enfants. Et puis des cigares et des cigarettes venant de je ne sais quel pays pour les pères, mes tantes, mes oncles, mon grand-père, mon père, des fichus, des foulards pour les tantes, les sœurs et ma mère et les grands-mères. Et moi, je récupérais, parce que tout le monde disait de toute façon, ça ne sert à rien la lecture. En gros, c'était ça, quoi. Donc moi, je récupérais tous les livres. Ce qui fait que quand j'ai commencé à lire, vers l'âge de 9-10 ans, j'avais une bibliothèque monstrueuse et hétéroclite. Je pouvais avoir dedans des livres de Marinetti, Le Rouge et le Noir, Don Quichotte.
Des romans de Balzac.
Des romans de Balzac.
Vous expliquez d'ailleurs.
Oui.
Par rapport à cette petite fille qui vous invite à aller regarder Interville en dégustant une tarte aux pommes. Vous n'avez pas été très gentil, vous avez dû lui briser le cœur à cette petite
fille. Oui, c'est ça. Mais je brisais, je crois que je brisais souvent les cœurs parce que, en fait, il suffisait du moindre souffle d'air et d'un petit quelque chose qui ne me plaisait pas pour que je rompe immédiatement.
On a parlé tout à l'heure du temps des idoles, ces idoles qui ont fait leur apparition en France. Bon, il y a Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, il y a Sheila, Franck Alamo. Dick Rivers, Eddie Mitchell, n'oublions pas. Enfin, il y a toute une ribambelle de jeunes gens talentueux, d'ailleurs, dont certains sont encore un petit peu présents. Mmh. Et il y a, alors, puisqu'on parlait de contestation, il y a celui qu'on a appelé le Bob Dylan français. J'aimerais que vous, parce qu'il figure dans votre dictionnaire amoureux, c'est Antoine.
Ah oui, Antoine. Alors, Antoine, il sort de Centrale. Et alors lui, il vient directement de si vous voulez, il y a ce qu'on appelle la période yéyé, c'est 60, 63, 64. C'est-à-dire ce sont des chanteurs français et françaises, chanteuses qui traduisent directement de l'anglais des chansons américaines. Hein. Ça donne les portes du pénitencier bientôt vont se fermer, c'est The House of the Rising Sun qui est une chanson des Animals. Alors c'est un tout petit peu modifié, parce que comme ça s'adresse à des jeunes gens et des jeunes filles yéyé en France, la maison en question, ça va être une prison, alors que dans la chanson d'origine, c'est un bordel. Mais on ne va pas chanter ça pour les gamins et les gamines. Donc il y a cette période comme ça, yéyé. Ensuite, il y a la période Protest Song, Bob Dylan, et on en parlait tout à l'heure. Et
John Baez,
par exemple. Les groupes anglais qui arrivent, les Beatles, les Stones, les Kings, les Who, etc. Donc il y a toute une évolution de la chanson à ce moment-là. Et Antoine, lui, c'est le chanteur contestataire, mais avec des mots français et avec des polémiques, alors qu'ils sont construites de toutes pièces par des producteurs. La fameuse polémique les cheveux longs et les idées courtes, l'un qui chante ça, Antoine, et l'autre, Johnny Hallyday, qui lui répond, parce qu'il y en a un qui veut mettre Johnny Hallyday en cage à Medrano, donc Antoine lui dit bah, on peut avoir les cheveux longs et les idées courtes, enfin voilà, chacun se renvoie un peu la balle, mais c'est quelque chose de totalement fabriqué. Mais ce qui est intéressant chez Antoine, c'est que c'est vraiment l'air du temps. Les chansons, les paroles. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'Amérique latine, avec la langue hispanique, et il y a les chanteurs de tango disent toujours que les tangos et les chansons ne disent que la vérité. Et ça, c'est vrai, quand vous écoutez les paroles, qui sont pas très très intéressantes, mais les paroles disent toujours la vérité d'une époque. Quand Sylvie Vartan. La chanson n'est pas très très bonne, la musique n'est pas très très bonne, mais elle chante, elle parle de ses amis dont certains ne sont pas revenus, mais ce ne sont pas des amis qui l'ont laissé tomber parce qu'ils ne l'aimaient plus ou quoi que ce soit. C'est tout simplement des amis qui sont partis en Algérie faire la guerre et dont certains ne sont pas revenus. Ça passe comme ça, vous avez c'est une phrase dans une chanson, mais donc ça dit toujours beaucoup d'une époque. Mais... ma position, moi, quand j'avais 13-14 ans, allez, et ça, je revendique ça, moi, j'écoutais assez peu ces chansons-là. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était Barbara, Ferrat, Brassens, Brel, et surtout le jazz que j'ai découvert à cette époque-là. Et j'ai découvert d'une drôle de façon. Il y a un ami qui était, dont le père avait une discothèque monumentale de jazz. Et il se trouve que cet ami adorait les pulls que je portais, qui étaient des pulls que j'estimais être horribles, qui étaient tricotés par ma mère, multicolores. Et donc, j'ai trouvé un truc formidable. Je lui échangeais des disques de jazz contre mes pulls. Et régulièrement, ma mère me disait, mais enfin, Gérard, je ne comprends pas ce que tu fais. Tu perds toujours tes pulls. Bah oui, je les perdais puisque j'ai... En fait, je les échangeais contre des disques. Donc, vous voyez, moi, par rapport à cette époque, j'achète effectivement des disques de Johnny Hallyday ou de Sylvie Vartan, mais uniquement parce que je m'aperçois que ça ennuie mes parents, que ça les énerve. Mais en fait, en réalité, ce que j'aime, moi, c'est écouter Jean Ferrat.
Qui, effectivement, incarne une autre France.
C'est une autre France, et puis c'est en même temps, c'est pour moi, c'est une sorte d'éducation politique, on commence à réfléchir sur son temps. On ne se contente plus d'écouter des sornettes à la télévision ou à la radio. le temps évolue et on avance avec son temps. C'est un peu comme les Azous qui avaient 15 ans au début de la guerre et qui en ont 21 à la fin de la guerre. Donc ils deviennent majeurs, parce qu'à cette époque-là, on devient majeur. Eh bien moi, en fait, je passe des années 60 à 70. Je suis un très jeune homme, adolescent, et je finis, j'ai entre 20 et 21 ans. Donc c'est pareil, la trajectoire est la même. On n'écoute plus les mêmes choses, on n'a plus le même regard sur la vie. 10 ans après, l'adolescence, c'est un moment vraiment totalement charnière. Et c'est vrai que je trouve qu'avoir vécu son adolescence à cette époque-là, c'est quelque chose de formidable. Je ne regrette absolument pas d'avoir eu 15 ans dans ces années-là, parce que c'était une époque formidable.
Alors, on a parlé musique, on a parlé de l'importance du transistor. Je crois qu'il y a 2 millions de transistors en France.
Oui, et alors que
au milieu des années 60.
Oui, parce que je vous rappelle que pendant la guerre, au sortir de la guerre, il y avait à peine 400 000 postes de radio avec
des
lampes.
Les gros postes vernissés qui sont recherchés d'ailleurs.
Bien sûr, aujourd'hui. Mais donc, comment dire, en peu de temps, la France vraiment change radicalement. Parce que le téléphone, on ne peut pas dire qu'il y avait le téléphone en France dans les années 50. Ça, c'est pas vrai. Moi, je me souviens, mon père qui a dirigé une usine qui s'appelle Carbone Lorraine, il était un des rares à pouvoir posséder un téléphone chez lui, tout simplement parce que comme c'était une usine de produits chimiques qui explosait, qui était dangereuse, il devait pouvoir être joint tout le temps. Donc d'ailleurs, ce pauvre homme, une nuit sur deux, il partait à l'usine. Si bien qu'à d'ailleurs, au bout d'un certain nombre d'années, il a bénéficié, et c'était merveilleux pour nous, à l'intérieur de l'usine, d'une villa avec un parc. C'est une histoire incroyable d'ailleurs. Une villa avec un parc à Gennevilliers, ce qui fait qu'il était sur place, et comme ça, au fond, il pouvait être debout toutes les nuits pour aller vérifier tel four qui explosait, tel accident arrivait à tel ouvrier, ainsi de suite.
Alors Gérard de Cortance, en feuilletant ce dictionnaire amoureux des 60s, je me suis rendu compte combien la télévision française avait été généreuse et fertile en programmes de toutes sortes, que ce soit du divertissement ou des émissions culturelles. Alors, vous en évoquez plusieurs de ces émissions. Il y a La caméra explore le temps, avec Alain Decaux et André Castelot, deux brillants historiens. Il y a des émissions comme La caméra invisible avec Jacques Legras. Moi, je me rappelle encore petit garçon, moi je suis né en 71, mais je me rappelle qu'elle passait sur Antenne 2, me semble-t-il. Enfin, c'est une émission qui a duré un certain temps. Et vous dites que, par exemple, aujourd'hui, les facéties de La caméra invisible, La caméra cachée, pardon.
Je pense que ça serait impossible.
Les gens ne prendraient plus l'humour comme ils le prenaient à l'époque.
Parce qu'il y a un côté politiquement incorrect. Ça, c'est certains gags de l'époque sont impossibles aujourd'hui. Et puis je crois en plus que la société a vraiment changé. Elle est beaucoup plus dure aujourd'hui. Donc c'est une société encore très 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 bon enfant. Quand on pense que la chanson de Paul Naref, Je veux faire l'amour avec toi, ça fait un scandale. Vous ne pouvez pas imaginer. Les chansons de l'époque, quand on parlait d'amour entre un garçon et une fille, d'ailleurs, nous, garçons, on avait beaucoup de mal à imaginer ce que pouvait être une fille, tout simplement parce que je vous rappelle que les lycées et collèges n'étaient pas mixtes. Donc, où voulez-vous qu'on rencontre des filles et où voulez-vous que les filles rencontrent des garçons? C'était pas si facile. Ça a l'air. C'est très simple aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait vraiment une différence, enfin, énorme. Donc, d'un côté, une société libre en même temps corsetée. L'apparition du carré blanc, par exemple, c'est quand même une histoire incroyable. Il y a un film sur la résistance. La fin du film, il y a un collaborateur qui se fait massacrer à coups de pelle et de pioche, et tout le monde est ravi, puisque c'est le salaud, c'est le traître. Bon, donc il est massacré, ça dure 2 minutes et demie, ça n'émeut personne. Mais là encore, le lendemain, dans la presse, il y a une unanimité de la gauche à la droite, du Figaro à l'Humanité, en passant par Télérama, par tout le monde. Pourquoi? Parce que pour pouvoir tuer ce collaborateur, un des résistants a couché avec la femme du collaborateur, et on a vu à l'écran pendant 15 secondes un quart de fesse de la pauvre jeune femme en question. Donc le lendemain dans la presse, la pornographie envahit les écrans de la télévision française. Il n'y a qu'une chaîne à l'époque. Ça envahit les écrans. Que vont devenir nos enfants ? Donc on crée ce carré blanc qui est vraiment une invention absolument diabolique parce que lorsque vous étiez enfant à l'époque, vous étiez en train de regarder une émission à la télévision entre vos parents, entre le père et la mère dans le salon, sur le fauteuil comme ça. Vous disiez « Formidable, il ne se passe rien, on peut regarder l'émission, les parents ne disaient rien. » Et tout à coup, le carré blanc apparaissait dans le bas droit de l'écran. Et là, les parents se retournaient vers vous, ils disaient « Va te coucher. » Donc c'était absolument... Oui, donc c'est des petites choses comme ça qui prouvent que la société a totalement changé.
La société est très prude encore.
Elle est encore très très prude, mais bien entendu. L'apparition de la mini-jupe, on fait un sondage parmi les Français. On leur demande, alors, qu'est-ce que vous pensez de la mini-jupe ? 54% répondent qu'il faut... C'est ignoble. C'est pas possible. Écoutez, on voit les genoux des jeunes femmes. C'est totalement indécent. Il y a une speakerine qui est mise à la porte de la télévision parce qu'elle a une jupe trop courte. C'est pas une mini-jupe, c'est une jupe trop courte. On voit la moitié d'un genou. Elle est mise à l'écart de la télévision. Donc c'est encore une époque très, très prude. L'apparition des collants dîmes qui remplacent les bas avec porte-jartelles, c'est une révolution énorme. Là encore, vous ne pouvez pas imaginer le scandale que ça a donné.
Alors, on revient un peu à la télévision.
Oui. Alors,
on parlait d'émissions formidables qui avaient vu le jour dans les années 60. Il y a 5 colonnes à la une. Là aussi, une émission qui a duré longtemps, mais qui finalement a disparu en 68,
oui.
Au moment des événements.
Au moment des événements, parce qu'en fait, ils ont voulu faire des sujets sur les événements. Mais si vous voulez, c'est une télévision corsetée.
Aux ordres du pouvoir, quand même.
Il y a actuellement un feuilleton, une série, pardon, à la télévision qui s'appelle Speakerine. Qui raconte assez bien. Enfin, c'est un roman,
c'est un thriller, polar, c'est ça. Oui, thriller, oui, oui.
Bon, mais on voit bien, on sent bien l'importance de l'État. Dès qu'il y a une émission qui ne plaît pas, l'État téléphone, on change les gens, on enlève l'émission, ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant dans cette télévision, c'est donc issu de la guerre, hein, c'est qu'il y a une volonté pédagogique. Et ça, c'est quand même c'est intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'éduquer les gens. Donc, c'est des émissions historiques. La caméra explore le temps. Des émissions, comment dire, qui ouvrent sur le monde. 5 colonnes à la une. Des émissions qui destinées aux femmes. C'est la première fois qu'il y a des femmes qui font des émissions pour les femmes. Hein, Dim Dam Dom, etc. D'ailleurs, les sous-titres, c'est souvent des éditions pour les femmes, mais que peuvent regarder les hommes. Mais c'est totalement nouveau. Avant, ça n'existait pas. La place de la femme dans la société était totalement négligeable. Donc, force est de reconnaître que les changements de société et vers la fin des années 60 sont passés par les femmes. C'est elles qui sont descendues dans la rue, qui ont imposé la pilule, qui ont imposé l'avortement libre et gratuit, etc. Donc il faut vraiment rendre hommage à ces femmes qu'on appelait féministes. Il y a eu des outrances, mais bon, bien sûr, mais heureusement qu'elles étaient là.
Dans les émissions, il y a la séquence du spectateur aussi.
Oui, et bien sûr. Alors, mais là encore, c'est un côté pédagogique. On dit aux gens, voilà quels sont les films qui sont sortis.
Alors, j'ai oublié le titre de l'émission qu'animait Pierre Tchernia, et qu'il était un jeu...
Monsieur Cinéma, ouais. Bon, ça, Alors, là aussi, peu pédagogique, mais intelligente. Il y avait quand même une forme d'intelligence. Je ne veux absolument pas dire que c'était mieux avant, jouer au vieux grincheux, c'est pas ce que je ne suis pas. Mais je trouve que dans la multiplicité d'offres aujourd'hui, qui est absolument hallucinante... N'importe qui peut avoir 125 chaînes de télévision chez lui. Il y a quand même beaucoup n'importe quoi, en fait. Là, il y avait quand même des choses au théâtre ce soir. C'était, voilà, enfin, les feuilletons, ça, c'était extraordinaire.
Alors, les feuilletons, là,
ça rassemblait la France entière.
Un vrai plaisir à en parler de ces feuilletons. Alors, Ivan Noé, L'Homme Invisible, Belle et Sébastien. Bon, il y a ceux pour lesquels vous consacrez carrément un article, Les Incorruptibles,
Jeannick Aimé. Alors, ça, c'est je recommanderais d'ailleurs ce feuilleton pour ce ministre qui a déclaré que sa mère portait le voile. Vous savez, qui était catholique et elle portait le voile comme les femmes musulmanes aujourd'hui. Donc il ne voyait pas de différence. Je dis ça de façon ironique parce que Jeannick Aimé, dont nous étions tous amoureux, était une infirmière qui déboulait dans le générique, lors du générique, chevauchant un Solex en sequette, en jupe plissée et avec un fichu sur la tête.
Et vous dites qu'elle incarnait la jeune fille idéale à l'époque.
Ah, mais on était tous amoureux de Jeannick Aimé, bien entendu.
Mais alors, reconnaissez quand même qu'aujourd'hui, ces feuilletons télévisés ne plairaient peut-être plus.
Ah ben ça, c'est certain. Pour écrire le roman et le dictionnaire amoureux, ça c'est merveilleux parce que Lina, vous avez accès à toutes ces archives maintenant. On a un clic avec
oui, l'ordinateur. Oui, on peut entendre les génériques. C'est
mais vous entendez les génériques, vous revoyez les discours du général de Gaulle, les feuilletons. Et j'ai revu quelques épisodes d'un feuilleton qui était extraordinaire, qui s'appelait Le Temps des copains. C'est aussi une thématique de l'époque, les copains. Les copines, il y a un nombre incroyable de chansons qui ont le mot copain, copine dedans. Eh bien, quand vous revisionnez aujourd'hui les premiers... Les premières heures de feuilleton du temps des copains.
Les premières saisons.
C'est assez intéressant parce que il y en a un qui monte à Paris, il n'y a pas l'autre terme, qui vient de sa campagne et sa mère lui prépare des petits sandwichs parce qu'il va prendre le train. Et il rencontre quelqu'un qui prépare HEC et cet élève d'HEC, il a une cravate. Il vient de son père est notaire. Enfin, je veux dire, c'est toute une histoire de France qui aujourd'hui est totalement dépassée. Mais ces feuilletons, c'est vraiment une coupe franche dans cette histoire. Et c'est un côté presque ethnographique qui est absolument passionnant.
Alors j'en cite quelques-uns, Ma sorcière bien-aimée, Flipper le dauphin, Mission impossible, Chapeau melon et bottes de cuir, Les saintes chéries, Le prisonnier... Vidocq, votre cher Vidocq, qui d'ailleurs, passé à la couleur, vous a terriblement déplu.
Ah oui, parce que ce qu'il fallait, c'est que ces feuilletons soient en noir et blanc. Dès que la couleur apparaît, c'est tout à fait différent.
Alors, qui jouait Vidocq dans la série en noir et blanc? Parce que plus alors, tard, il y a eu Brasseur et...
Non, alors le premier... écoutez, j'ai un trou, mais je l'indique dans le dictionnaire.
Oui, c'est dans le dictionnaire, j'avoue, j'ai pas noté de mon côté.
C'est pas Brasseur, non. Je revois sa tête, tout, enfin bon. Ça sera coupé, hein.
Gérard de Cortance. Gérard de Cortance. Ces années 60, c'est aussi des années de grande ébullition diplomatique, politique, de tension. Oui, hein. Oui, c'est oui. Encore un peu, il y a encore des relents de guerre froide, un début peut-être de coexistence faussement pacifique.
Oui, oui, oui.
Il y a l'érection du mur de Berlin en 61. Vous l'avez rappelé, la fin de ce qu'on appelait cette guerre d'Algérie qui taisait son nom. Il y a l'assassinat de Kennedy, l'assassinat de Martin Luther King, tentative d'assassinat, l'attentat du petit Clamart contre De Gaulle.
Absolument.
C'est une époque aussi agitée au niveau idéologique, contestation. Alors, et puis des hommes comme Kennedy, assassiné à 46 ans.
Mais bien entendu.
Et quasiment en direct. Télé-tragédie planétaire, selon l'expression d'Edgar Morin.
Mais bien entendu. C'est-à-dire que en écrivant ces deux livres, je ne suis pas dupe. C'est-à-dire que ce que je voulais donner, c'était une image de l'époque vue notamment par des adolescents. Mais c'est certain que ces époques qu'on pense être bénies, notamment en France, le monde flambe en réalité tout autour. C'est ça qui est très paradoxal. C'est de voir cette jeunesse heureuse alors que le monde qui l'entoure est un monde qui, au fond, qui n'est pas si, si rose.
Ouais, au Moyen-Orient,
si rose
c'est
ça.
La guerre des six jours.
Mais absolument. C'est entouré de guerres. Et ça, je le raconte très bien dans le roman, où il y a donc trois garçons et une jeune fille. Je vois leur évolution. Et ça m'intéressait de raconter leur vision. C'est-à-dire, imaginez quatre adolescents qui racontent ce qu'ils ressentent de cette histoire-là. Et évidemment, quand vous êtes adolescent, il y a des événements qui ne sont pas très importants, qui pour vous sont essentiels, et au contraire de grands événements à côté desquels vous passez totalement, parce que ça ne vous intéresse pas, parce que vous êtes encore des jeunes gens et des jeunes filles en formation. Mais ce qui m'intéressait aussi de montrer, alors plus dans le roman que dans le dictionnaire amoureux, c'est de prendre quatre personnes qui ont 15 ans dans 16 années et qui en ont entre 65 et 75 aujourd'hui. C'est-à-dire de voir l'évolution de ces gens et surtout d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer dans cette France pour que, en janvier 2015, on descende tous dans la rue à la suite des attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercachère, pour défendre des valeurs, la liberté, la fraternité, la démocratie, une façon de vivre qui est la nôtre, qu'on croyait totalement acquise à la fin de la guerre, en 1945, et qui sont peut-être en train de disparaître aujourd'hui. Donc c'était ça aussi qui m'intéressait, de voir, au fond, à partir de ces années 60, qui sont pour des adolescents des années de bonheur, comment se fait-il que cette génération se retrouve aujourd'hui à descendre dans la rue pour ça ?
Et par exemple, je cite François Nourricier, qui écrivait dans les Nouvelles littéraires, suite donc aux événements de la fameuse nuit du 22 au 23 juin 1963, je cite, « Voici que se lève immense, bien nourrie, ignorante en histoire, opulente, réaliste, la cohorte dépolitisée et dramatisée des Français de moins de 20 ans. » Est-ce que ce n'est pas encore d'une grande actualité en 2018 ?
Ben, ce que je vois surtout, c'est que ce cher monsieur Nourricier, je ne sais pas si on est dépolitisé, mais 6 ans, même pas, 5 ans après ce qu'il écrit là, ces jeunes gens et jeunes filles dépolitisées vont lancer mai 68. Donc je pense qu'ils ne sont pas si dépolitisés que ça. Bien nourris, certes, par rapport à la génération précédente, peut-être même trop nourris. Alors quant à la...
Comment dire, réaliste, bien voilà. Nourrie, ignorante en histoire.
Alors, quant au lien avec aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'ignorance de toute une nouvelle génération d'adolescents aujourd'hui de leur propre histoire. Et ça, c'est vrai.
Alors, il va falloir...
Et ça, c'est très inquiétant. Parce que si vous oubliez votre histoire...
Oui, celui qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Je ne sais plus qui.
Oui, alors on ne la revivra pas exactement, parce qu'on ne revit jamais tout à fait les mêmes choses. Mais en fait, il y a certains oublis qu'on ferait mieux de ne pas oublier. Enfin, ça me semble. D'où justement, la manifestation en 2015, où il faut certains événements pour s'apercevoir qu'on a oublié certaines choses.
Mais Gérard de Canton se reconnaissait que le temps des copains était remplacé maintenant par les amis sur Facebook. On est amis sur Facebook.
Oui, mais enfin, ça ne veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Les likes et les je t'aime, pour moi, je t'aime, c'est un autre sens que ça. Mais oui.
Il y a un aspect. Alors, bien sûr, c'est richissime. Hein, on a, je veux dire, notre entretien de 40 minutes ne rend absolument pas compte de tous les aspects du dictionnaire.
Surtout qu'il est très contestable, puisqu'il est entièrement subjectif.
Il est amoureux, forcément, oui.
Voilà.
Il y a toute cette aventure de l'espace, quand même. Le premier pas de l'homme sur la Lune en 69. Il y a même, un petit peu avant, Yuri Gagarin. C'est extraordinaire, cette bataille entre États-Unis et l'Union soviétique pour la conquête
de l'espace. Bien sûr, et ça, nous la suivions. Hein. Alors, d'où cette guerre froide aussi, enfin, terrible entre les deux grandes nations de l'époque, l'Union soviétique et puis les États-Unis, au fond, qui veulent être la première nation à mettre le pied sur la Lune. Moi, j'ai une expérience assez particulière de ce premier homme qui marche sur la Lune.
Est-ce que vous l'avez entendu, mais à la radio, mais en espagnol ?
Oui, alors je vous explique pourquoi, et c'est totalement surréaliste, et j'adore cette histoire, en fait. Ça, on dit beaucoup sur l'époque. À l'époque où ces astronautes sont prêts à mettre pour la première fois le pied sur la Lune, je suis sur une route en Espagne avec mon père, en vacances, avec mon frère, ma mère, notre chien. Et on est perdu en pleine nuit dans des travaux d'autoroute, precauciones obras, attention aux travaux en Espagne. Et on cherche avec une lampe électrique la direction. Savoir est-ce qu'on est, on est sorti de l'autoroute, est-ce qu'on est sur une route secondaire, est-ce qu'il y a un panneau. Et j'entends en espagnol donc la voix du type à la radio qui est en train d'expliquer qu'il y a des gens qui sont en train de mettre le pied sur la Lune. Et je trouve que la distance entre les deux me plaît beaucoup.
Gérard de Cortance, merci. En tout cas, on peut mettre le pied sur la planète 60s grâce à votre dictionnaire amoureux des 60s aux éditions Plon. Et puis, si on veut à la fois mélanger la fiction, l'histoire de ces copains que l'on retrouve dans votre roman qui débute par cette fameuse nuit du 22 au 23 juin 63, avec en plus, il y a un aspect un peu inventaire à la Prévert de ces années 60 dans le roman.
Oui, c'est
documentaire et romanesque.
Oui, si vous voulez, pour faire une référence cinématographique, c'est un côté, vous savez, ces comédies italiennes où nous sommes tant aimés, nos meilleures années. Voilà, c'est-à-dire, je suis des gens qui évoluent et qui vieillissent. Qui sont d'abord adolescents, qui croient, qui ont des rêves. La différence, je finirai peut-être là-dessus, entre le dictionnaire et le roman, c'est que pour le dictionnaire, comme dit Kipling, je me suis procuré mes faits, c'est le dictionnaire, et je les ai déformés pour en écrire un roman, qui est « Laisse tomber les filles ».
En tout cas, le dictionnaire amoureux des 60s est une somme remarquable. Vous y avez passé beaucoup de temps.
Oui, mais ça, c'est comme dirait Aragon quand on lui demande combien de temps vous avez mis pour écrire ce poème, il dit à la fois 3 minutes et demie et toute ma vie.
Laisse tomber les filles, votre roman chez Albin Michel et le dictionnaire amoureux des 60s aux éditions Plon. Bonsoir Gérard de Cortance et merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci, bonsoir.